Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique.
Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous. Donc on est réunis ici pour la première avant-première de la journée, mais aussi du Paris Podcast Festival numéro 6. Et on a la chance d'accueillir l'équipe du podcast Shame on You avec nous, dont on va écouter le premier épisode en avant-première. Alors, Shame on You, c'est un documentaire immersif qui revient sur l'affaire DSK qu'il y a eu à New York en 2011 et qui propose un nouveau récit post-MeToo, encore jamais entendu. Et je suis donc avec Anne-Cécile Genre, qui est à l'origine une journaliste reporter d'images pour la télévision, mais qui a écrit et qui a co-écrit Shame on You avec Marine Pradel, qui n'est pas avec nous, et Théo Boulanger, qui est réalisateur et compositeur, dont Shame on You aussi. Et bah, je vous propose qu'on écoute le premier épisode dès maintenant. Bonne écoute!
Attention, ce podcast traite de violences sexuelles. Il ne s'adresse peut-être pas à toutes les oreilles. Il fait encore jour. On est en fin d'après-midi. J'ai eu mon boss au téléphone qui m'a dit « Tu fonces au Sofitel ?» Et il n'y a rien. Il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de police, il n'y a pas de cordon de sécurité. Je vois devant moi un hôtel de Midtown classique avec la porte qui tourne, là, des gens qui rentrent, qui sortent, des doorman, des portiers, etc. Mais rien d'anormal. Jusqu'à ce que je vois un type débarquer avec un appareil photo en bandoulière qui vient tout de suite me voir. Je vois qu'il se pose les mêmes questions que moi, c'est-à-dire « qu'est-ce que je fous là ?» Il a l'air de rien se passer, ni de rien s'être passé. Il ne sait même pas de qui on parle, en fait. C'est son agence de presse qui l'a envoyé, il ne sait pas pourquoi il est là. Et il ne se passe rien. Mais bon, à ce moment-là, on se dit on est deux quand même. Donc là, ça veut dire que je ne suis pas la seule à avoir eu l'info. Il s'est peut-être passé quelque chose.
J'étais à Bushwick, j'avais une super vue sur Manhattan. À ce moment-là, je me préparais à sortir. Et je m'en souviens très bien parce que j'avais décidé de mettre une jupe. Et dans mon métier, comme je portais beaucoup de caméras, que bah, parfois il faut se mettre à moitié par terre, etc., bah, on ne met pas des jupes pour travailler. On doit toujours être capable de bouger. C'est vraiment quelque chose qui est réservé aux jours de congé. Et en fait, je reçois un texto. On me dit d'aller filmer au Sofitel. On me dit que Marine y est déjà. Il faut aller travailler parce qu'il s'est passé quelque chose au Sofitel.
Toute la nuit, nous allons nous relayer à filmer devant le Sofitel, une qui filme, l'autre bureau qui numérise les cartes mémoire des caméras et qui envoie les images à Paris. Car en 2011, à New York, moi, Marine Pradel,
et moi, Anne-Cécile Genre,
nous sommes journalistes, mais plus précisément, nous sommes journalistes reporters d'images pour la plupart des chaînes de télévision françaises. Ce 14 mai 2011, c'est le premier jour d'un long été à couvrir cette affaire qui va se prolonger jusqu'en décembre 2012 dans le Bronx. Depuis, nous n'avons jamais vraiment arrêté d'y penser. Notre travail de cette époque nous a laissé un sentiment diffus, d'inachevé.
10 ans après cette nuit au Sofitel, Thomas, notre chef de l'époque, nous a envoyé un disque dur qui contient des heures et des heures de rush.
Alors, Sofitel jour pour ours, c'est quoi ça?
J'ai fait plein de gens qui t'exploitent, quoi. Enfin, okay.
Ce qui reste de cette année 2011-2012 a documenté cette affaire hors norme.
Vous écoutez Shame on You, le podcast sur le dernier grand scandale sexuel avant MeToo, l'affaire DSK.
En 2011, on est toutes les deux journalistes à New York quand le président du FMI est arrêté après le viol présumé d'une femme de chambre nommée Nafissatou Diallo. L'affaire au retentissement planétaire secoue nos convictions personnelles et notre vision du journalisme.
de quoi l'affaire DSK était le nom? Ça fait 12 ans qu'on se posait la question. Entre-temps, MeToo est passé par là, le monde a changé et nous avec. Dans ce podcast, on replonge dans nos archives et on tend le micro à celles et à ceux qu'on n'a pas écoutés à l'époque pour raconter, en version corrigée, ce qui s'est vraiment passé cette année-là. Shame on You, chapitre 1. Stupeur et banalité au Sofitel.
Il y a une règle à New York qui fait qu'on n'a pas le droit d'être du côté de l'hôtel qu'on filme, donc je suis de l'autre côté de la rue. Je m'installe. Je suis pas toute seule, mais il y a vraiment peu de monde. Il doit y avoir deux photographes et deux caméras. Le réflexe, c'est on fait le plan large, les plans des rues autour, les taxis jaunes parce qu'on est à New York. Ça, je commence à avoir le réflexe parce que je viens d'arriver. Et puis, bah, tout ce qu'on peut faire comme plan qui bouge autour d'un endroit qui bouge pas. Je vois débarquer un gros camion du NYPD, donc de la police de New York. Je laisse tout en plan de l'autre côté de la rue et je cours et j'essaie de filmer les policiers qui sortent. Ils sont des mallettes parce que c'est la police scientifique. C'est comme au cinéma.
À ce moment-là, au moment où je suis devant l'hôtel, je le sais maintenant, mais c'est à peu près à l'heure où elle est emmenée à l'hôpital pour être examinée par des médecins. Je me souviens que l'expertise parlait de bleus, au-delà du fait qu'elle avait des bleus sur les bras, des hématomes sur les bras, etc., d'avoir été attrapée, elle avait des bleus sur le vagin. Des bleus sur le vagin, des bleus autour du vagin.
J'étais étonnée que ça sorte, mais j'étais pas étonnée que ça se produise. C'est des choses avec lesquelles, malheureusement, avec mes convictions féministes et mon expérience de femme avocate dans le domaine, qui me surprennent plus.
La personne que vous entendez s'appelle Maud Bekkers. Elle est avocate en droit du travail et elle est spécialisée dans les violences faites aux femmes. Alors que nous vivons cette journée du 14 mai 2011 comme un grand coup de tonnerre, elle n'est pas surprise du tout. Un an auparavant, Maître Bekkers a traité un dossier en tout point semblable. Les mêmes portes dorées, les mêmes tentures en velours, les mêmes épaisses moquettes qui étouffent les pas et les cris. Sauf que la scène se passe à Paris, à l'hôtel Park Hyatt.
Ma cliente est rentrée faire la chambre d'un membre de la délégation du prince du Qatar, qui lui a fait des propositions sexuelles en échange d'argent, ce qu'elle a évidemment refusé. Suite à son refus, elle est allée faire la salle de bain de cet homme qui s'est présenté dans la salle de bain et qui l'a agressée sexuellement, la plaquant contre le mur, en lui mettant sa main dans la culotte, en se masturbant devant elle, en bloquant la porte pour pas qu'elle puisse fuir. Et l'agression sexuelle a été interrompue puisque quelqu'un est rentré dans la chambre. Donc autant dire en plus qu'il agissait en toute impunité puisqu'il ne fermait même pas la chambre, autant vous dire qu'il avait peur de rien pour faire ça. Ma cliente est sortie complètement traumatisée et perturbée de cette chambre. Elle est allée voir le directeur de la sécurité qui l'a immédiatement cru. On l'a immédiatement cru et on lui a demandé de le reconnaître sur vidéo ce qu'elle a fait. Voilà, sur le fait qu'on ne remette jamais en question finalement sa parole, trouve bien qu'en fait c'est assez monnaie courante.
Au moment où nous sommes devant le Sofitel, incrédule, on ne se rend pas compte de la terrible banalité de ce qui vient de se passer. Maud Bekkers nous raconte que tout secteur professionnel confondu, une femme sur 10 admet avoir subi un rapport sexuel forcé ou non désiré dans le cadre du travail. Et dans les hôtels de luxe, c'est beaucoup plus qu'une femme sur 10. Au point que ces affaires-là occupent Maître Bekkers à temps plein, ou presque. Pour elle, c'est devenu un champ comme un autre du droit du travail.
Il y a plusieurs critères qui font que les violences sexuelles vont être non seulement pratiquées, mais ensuite souvent tuées par les victimes, et donc ça favorise le passage à l'acte des auteurs. C'est la situation de fragilité d'une femme. Après, la fragilité, elle peut venir sur plein de choses. Elle peut venir justement sur une femme qui a une carrière qui a toujours bien marché et qui veut finir sa carrière en étant à son poste. Elle peut être victime aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la précarité sociale et le statut d'étrangers avec le renouvellement du titre de séjour, etc., crée une fragilité particulière, notamment quand les femmes ont leur titre de séjour en relation avec le travail. Elles savent que si elles perdent leur travail, elles perdent leur titre de séjour. Et c'est une grosse problématique. Elles sont pas protégées. Et quand on interviewe les gouvernantes qui ont l'habitude de gérer ces femmes de chambre et notamment d'assurer la formation des femmes de chambre, eh bien, certaines vont dire que la façon d'assurer leur sécurité, c'est qu'elles doivent être deux, par exemple, pour faire le ménage. Quand on sait les bénéfices que font ce type d'hôtel, on pourrait se dire que c'est un investissement bien moindre par rapport au, voilà, à la façon de protéger une femme. Mais bon, dans l'hôtel de madame, enfin de la femme que je défendais au parc Hayat, elle a toujours fait les chambres toute seule. On pourrait aussi imaginer que les chambres soient faites uniquement quand les clients sont absents de la chambre. Ça aussi, ça coûte rien pour le coup. Mais on n'ose pas dire à ces hommes qu'ils peuvent pas bénéficier de la chambre quand ils veulent. Et donc les femmes de chambre sont amenées à faire le ménage alors qu'ils sont en peignoir à côté et qu'ils leur imposent une intimité qu'elles ne veulent pas voir. Ça en fait des proies faciles du fait de leur isolement et du fait que, comme elles sont souvent attachées à leur travail parce que dans des situations de précarité et qu'elles ont en plus l'espoir de pouvoir grimper socialement, eh bien souvent elles se taisent.
On peut imaginer que pour Nafissatou Diallo, mère célibataire, pauvre, immigrée aux États-Unis depuis seulement 4 ans, ce poste de femme de chambre au Sofitel de New York, c'est une chance. Le salaire d'une femme de chambre syndiquée à plein temps au Sofitel, c'est 5 000 $ par mois. C'est deux fois ce qu'on gagnait nous en tant que journaliste. Plus tard, on l'apprendra. Lorsqu'elle est trouvée par sa supérieure, tremblante, crachant par terre au 28e étage de l'hôtel, elle répète la même chose en boucle. I don't want to lose my job. Je ne veux pas perdre mon travail. I don't want to lose my job. Je ne veux pas perdre mon travail.
Le 14 mai 2011, en bas de l'hôtel, derrière nos caméras, on ne connaît pas encore son nom. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout à ce moment-là. Il ne pèse rien face au nom de l'homme mis en cause, Dominique Strauss-Kahn.
Je ne pense qu'à une chose, c'est Dominique Strauss-Kahn, ce nom plus grand que tout, en fait, qui écrase tout. Et on se dit, il faut des infos sur lui. On veut savoir, il est où, là, maintenant, qui l'a vu, qui lui a parlé. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Peut-être qu'ils se sont trompés, c'est quelqu'un d'autre, c'est un homonyme, ça s'est pas passé comme ça. Peut-être qu'il y a une incompréhension, il y a un malentendu quelque part. Il est encore possible que ça fasse pchit.
De voir débarquer comme ça la police, ça me fait quelque chose quand même. Je me dis, Ah oui, il s'est passé quelque chose, et a priori un truc un peu dégueu, parce qu'il y a besoin de faire des prélèvements. Je sais pas ce qu'ils vont mettre dans leur grande mallette. Maintenant, je me dis, il devait y avoir des lampes, la lampe à lumière bleue qui permet de voir le sang, le sperme et tout.
Ce 14 mai 2011, la police de New York est appelée et intervient au Sofitel. Mais c'est loin d'être automatique dans ce genre d'affaires. Parce que les victimes elles-mêmes hésitent à parler. Elles savent que dans 80% des cas, leur plainte sera classée sans suite.
La justice, c'est à l'image de notre société. Quand on est dans une société patriarcale et sexiste, eh bien la justice, elle l'est aussi, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Donc, tous les débats qu'on peut avoir au comptoir autour de la crédibilité d'une victime, de savoir si en fait elle n'est pas un peu aguicheuse, un peu prostituée, un peu trafiquante, etc., eh bien malheureusement, on les retrouve dans la justice. Les hommes et les femmes qui composent la justice ne sont pas à l'abri, malheureusement, de ce type de discours. Moi, j'ai eu des audiences hallucinantes devant une juge de l'instruction femme à Fontainebleau, où le fait que ma cliente tutoie son agresseur était presque une forme de séduction. Enfin, des choses complètement dingues, quoi, qu'on n'attend pas de la part des magistrats, mais malheureusement, ils vivent dans la société dans laquelle ils sont éduqués. Et puis aussi avec les réflexes sexistes avec lesquels ils sont éduqués. Et c'est pour ça que ça concerne aussi. Souvent, on me dit, est-ce que c'est plus facile de plaider devant une juge femme que homme? Non, elle est éduquée dans la même société. Donc, une société dans laquelle on apprend un certain nombre de choses qui créent après des dysfonctionnements.
Dans le cas de Nafissatou Diallo, c'est l'hôtel qui a appelé la police. Mais pour la cliente de Maud Bekkers, les choses se sont passées autrement.
Suite à l'agression, elle a été très perturbée. On lui a dit de rentrer chez elle et qu'on se chargeait à l'hôtel Park Hayat de prévenir la police. Elle est rentrée chez elle et quand elle est revenue le lendemain pour aller sur son lieu de travail, elle s'est rendue compte de deux choses. Non seulement la police n'avait pas été prévenue, et deuxième chose, le membre de la délégation du prince du Qatar qui devait partir 15 jours après avec toute la délégation était parti à 10h50 du matin. Donc il avait bien évidemment été prévenu de ces dénonciations. qui était critiqué par les femmes de chambre dans cet hôtel-là, c'est que par contre, lorsque elle pouvait être soi-disant supposée d'avoir commis une infraction, mais que ça soit quelque chose qui n'est même pas une infraction pénale, par exemple casser une bouteille de parfum à l'intérieur d'une chambre, eh bien là, on les menaçait d'appeler la police. Par contre, les violences sexuelles dont elles étaient victimes, eh bien non, la police n'était pas appelée. Et dans mon dossier, elle n'a pas été appelée. C'est ma cliente qui a dû aller porter plainte le lendemain de l'agression.
Son employeur veut la muter dans un autre hôtel, mais la femme de chambre refuse. Elle est licenciée. Et malheureusement, comme 8 femmes victimes de violences sexuelles sur 10, son dossier n'aboutit pas. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, une affaire similaire fasse les gros titres des journaux.
L'affaire DSK a permis de faire ressortir son dossier qui avait été classé sans suite. Donc, quelque part, elle était satisfaite qu'une affaire comme ça puisse être révélée au grand jour par les médias, puisque c'est grâce à un appel téléphonique d'un journaliste auprès du parquet qui s'étonnait du classement sans suite que le dossier a réapparu au-dessus de la pile du dossier du parquet. Donc, en effet, l'affaire DSK, ça lui a permis quand même de pouvoir avoir une suite judiciaire qui a été donnée à son dossier.
Si vous pouviez lui parler, Anafissa Toudialo, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Merci. Je pense que c'est en fait quand on visualise les dernières affaires qui se sont passées ces dernières années, c'est la première qui a permis de MeToo, en fait, je pense. C'est un merci que je lui donnerais pour toutes les femmes que je défends, et moi aussi en tant que femme, c'est que je pense que ça devait être extrêmement difficile. Mais extrêmement difficile de porter plainte contre un type comme ça. Ça demande un courage de dingue, en fait. C'est franchement... Moi, j'ai beaucoup de respect. Voilà, j'ai beaucoup de respect, je la connais pas. Mais j'ai beaucoup de respect pour elle, comme j'ai beaucoup de respect pour mes clientes, en fait. Parce que le combat dans lequel elle s'engage, à chaque fois, c'est un combat tellement inégalitaire. Moi, je suis toujours hyper épatée devant mes clientes. Hein. C'est vraiment... On se demande quelle est la force qu'il y a derrière ces nanas-là pour qu'elles puissent le faire, quoi.
Maître Beckers nous raconte qu'aujourd'hui, sa cliente a quitté Paris. Après plusieurs tentatives de suicide, elle a renoncé à son ambition de devenir gouvernante dans un palace. Son agresseur n'a jamais été inquiété.
Aujourd'hui, ces histoires de femmes abusées, diminuées, réduites au silence ont de plus en plus leur place dans les médias.
Aujourd'hui, on pense, on aurait cherché à se mettre à la place de Nafissa Toudialo.
Mais en cette année 2011, à New York, on a beau être des femmes... On se pense avant tout journaliste et on a d'autres priorités.
What is the atmosphere inside the hotel?
Well, this morning it's full of security. I'm a tour guide and they're watching me carefully and trying to figure out who I am. Otherwise, it's generally a
la rue était remplie de policiers.
On filme le Sofitel. Le Sofitel, c'est beau, ça brille. On met des taxis jaunes devant parce que ça fait New York.
Et on est rentré dans l'hôtel, il n'y avait rien de particulier.
Mais la réalité de l'histoire, je pense qu'elle se passe du côté de la sortie de service. Je ne sais pas s'il y a une sortie de service au Sofitel, mais comme je disais, on ne voit pas passer les employés par cette porte, on voit passer que des gens hyper bien fringués. Et je trouve que c'est assez représentatif de la façon dont on a couvert l'affaire depuis le début. Moi, pas une seule seconde, il m'est venu à l'esprit de peut-être... aller chercher du côté de l'entrée de service.
Pourtant, il est là, du côté de l'entrée de service, le phénomène de société. L'oppression, la domination du corps des femmes par les hommes, et surtout les hommes puissants. Elle est derrière la porte, pas la grande porte dorée qui tourne, non, la petite porte battante sur le côté. Dès le premier jour de l'affaire, on passe à côté. Et pourtant, ce rapport de domination violente, les femmes de chambre... Elles ont essayé de nous le mettre sous le nez.
Jesus Christ.
Les Guinéens, justement,
Non, c'est plutôt des gens en uniforme. Je pense que c'est nous.
C'est moi qui essaie de parler. Oui, je suis au téléphone avec quelqu'un, je pense.
C'est pas les Guinéens, justement.
Ah, c'est toi.
C'est moi, oui.
Vous entendez le son de nos rushs, nos images en date du 6 juin 2011, donc 3 semaines après l'arrestation de DSK.
Voilà, donc il y a un énorme bus qui est posé devant le tribunal et on voit descendre la cinquantaine de femmes de chambre.
Excuse me, how are you? You remember me?
Yeah!
Ce jour-là, nous filmons devant l'entrée de la cour criminelle, la cour pénale de Manhattan, pour la toute première audience de l'affaire. Évidemment, nous n'attendons qu'une chose, l'arrivée de DSK, pour avoir les précieuses images qui feront l'ouverture des journaux télé du soir en France. On voit un quart de tourisme s'arrêter devant la cour et des femmes presque toutes de couleur en descendre.
En fait, c'est marrant, j'avais complètement oublié ça. On les voit discuter entre elles et elles ont l'air trop contentes de se retrouver les unes les autres. Il doit y en avoir plein qui sont représentantes syndicales dans leurs différents hôtels.
Elles sont tellement nombreuses que les agents de sécurité les placent derrière une barrière. Et elles viennent grossir les rangs de la foule qui attend.
Allow them to come and think they can use us. We are employed to serve them. We're not employed to be their mates, bedmates.
How often does this happen? Have you been in a situation like
this? I've been in this situation twice.
So what did you do?
I just get the houseman to come and give me a hand in the room.
En continuant à regarder les rushs de cette journée, on retrouve leurs interviews. On leur avait tendu le micro.
C'est la première qu'on interviewe et elle dit « Moi, ça m'est déjà arrivé deux fois ».
Elles s'appellent Patricia, Désirée, Anna et bien d'autres. Et elles avaient des choses à nous dire.
Elles veulent un beeper pour pouvoir appeler à l'aide si ça leur arrive quand elles travaillent.
I was been victim years ago and it just was swept under the rug. By the time we get to the room to the guests had left.
Elle dit donc c'est la troisième qu'on interviewe et elle dit moi ça m'est arrivé il y a quelques années et ça a été complètement mis sous le tapis par l'hôtel.
Elles sont hyper nombreuses. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la voiture qui va déposer des SK qui se gare devant.
Dominique Strauss-Kahn sort de sa voiture noire.
Avec Anne Sinclair qui lui prend le bras.
Et on commence à les entendre. Shame on you. Honte à vous.
C'est beau. C'est beau ce moment, je trouve, parce que vraiment, en fait, on l'a pas vu sur les images à quel point ça a été... Elles avaient hyper bien préparé leur truc.
Le 6 juin 2011, elles le crient devant nos caméras. Elles nous mettent le nez dedans. Cette agression, ça n'est pas un cas isolé, c'est systémique.
Je me souviens d'avoir été assez étonnée de me dire « Ah, c'est super, comme une... enfin, d'avoir trouvé ça génial », et puis de m'être arrêtée là, quoi. La personne de DSK est tellement énorme que ça écrase tout et qu'à ce moment-là, non, l'urgence journalistique, enfin pour moi, elle est d'avoir une place dans la salle d'audience pour pouvoir voir ce qui s'y passe et parler de lui. Parce qu'en fait, en vrai, on ne parle que de lui. Donc oui, non, a posteriori, je me dis que là, je me suis un petit peu plantée. Le sujet, il n'était pas là. Est-ce que ce fait divers... ce juicy, quoi, juteux, on dirait en français, est-ce qu'il révèle un phénomène de société plus profond, plus grave, qu'il faut mettre en lumière? En vrai, c'est ça notre travail.
Plus de 10 ans après, ce « shame on you », honte à vous, résonne encore dans nos oreilles.
À qui s'adressait-elle? À DSK, à lui seul, aux hommes en général? À leur hiérarchie qui leur impose de porter des jupes quand elles réclament des pantalons, qui ignore leur demande de plus de sécurité au travail malgré la fréquence des agressions? Ou est-ce qu'elle s'adresse à nous, journalistes, qui ne saisissons rien de l'ampleur du phénomène?
J'ai pas particulièrement de sympathie par rapport à Strauss-Kahn. C'est juste que la machine se met en route sur les premiers instants. Je suis juste une machine à enregistrer des images. Et c'est après, c'est dans les jours qui vont suivre où à ce moment-là, la bête médiatique va avoir faim et là, il va falloir que je la nourrisse. Et là, c'est là que ça va devenir insidieux. Je me prépare déjà à pas dormir cette nuit-là, mais je suis loin de m'imaginer que ça va durer un an.
C'est le début d'un spectacle, une super production comme seuls les Américains sont capables de produire, où il y aura des menottes, de la prison et des millions de dollars en petites coupures. Les Français s'indignent, mais ils ignorent à quel point la justice américaine a un temps d'avance sur l'enquête.
Ça sera dans Shame on You, chapitre 2, un spectacle made in America.
Flash qui crépite, les menottes, les flics avec les cravates, pas possible, on est dans Harlem, il y a des sirènes, enfin, on n'y croyait pas. Et là, c'est tellement dingue, on a tellement l'impression d'être dans un film, que à la fois ça devient réel, mais c'est encore plus dingue. Donc c'est encore plus excitant.
Bon, merci. On est sur un premier épisode très fort. Peut-être que pour commencer, on peut parler de la naissance de votre projet et qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette contre-enquête et pourquoi aussi le format podcast alors que vous venez de la télé à l'origine avec Marine.
Oui, alors c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans et demi, donc on porte depuis vraiment longtemps. On n'imaginait pas que ça allait nous prendre autant de temps de le faire. À chaque fois qu'on se croisait, en fait, Marine et moi, on a vécu dans des pays différents après pendant longtemps. Et à chaque fois qu'on se revoyait, on parlait de ça. Ça a été un moment, c'était nos débuts aussi de journalisme. Hein, il y a eu MeToo qui est arrivé. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'acteurs en commun. Enfin, d'acteurs, pas des actrices d'Hollywood, mais les gens de la justice américaine, notamment les avocats, etc. Donc ça nous a beaucoup rappelé. Et puis voilà, on ne pouvait pas s'empêcher de se demander pourquoi cette affaire n'est pas devenue un MeToo. Et du coup, le choix de ne pas faire un documentaire télé, parce que donc Marine est à New York, et à Washington en ce moment, mais on est toutes les deux plutôt journalistes télé, enfin réalisatrices d'ailleurs plutôt, c'est que justement ces images qu'on a tournées, on trouve que on les a tous beaucoup vues à l'époque, et elles sont porteuses de pas mal de clichés. Et on trouve que Et puis on était aussi dans un rôle où on nous demandait énormément de nous effacer. Enfin, c'est le principe, quoi, quand on est journaliste télé, on n'existe pas. Or là, c'était tout l'inverse qu'on voulait faire. On trouve que notre ressenti de l'époque, il est important. Il nous mène vers d'autres questions et vers des nouvelles découvertes aussi. Et du coup, voilà, moi je fais quand même pas mal de podcasts avec Théo depuis... On était ici en 2018, donc ça fait 5 ans. Et voilà, pour moi, le podcast permet d'explorer des choses beaucoup plus complexes, d'aller dans des émotions beaucoup plus que la télé. Et voilà, ça nous permettait de faire un pas de côté. Et donc on essaye de faire quand même exister nos rushs, nos images. On va certes, il y a quand même des trucs hyper croustillants hein, dans ce qu'on a retrouvé dans le disque dur. Donc on a un compte Instagram et on compte bien l'alimenter. Mais le fond de l'histoire, on le fait sortir de nos souvenirs. Et je pense que ça s'entend, hein, que tout n'est pas écrit. Il y a des moments où ça me faisait tiquer, parce que en fait, on s'est vraiment allongé sur des divans et on a fait sortir nos souvenirs. Moi, je parle hyper mal, je me rends compte. Mais voilà, c'était l'idée, c'est que on a fait un travail un peu hybride, quoi. On n'est pas que enquêtrice sur cette histoire, on est aussi actrice. Et vous allez l'entendre au travers des épisodes. Mais l'idée, c'est que nous-mêmes, on a changé. Il y a des choses qu'on raconte de ce qu'on a fait à l'époque qui sont très étrange en fait, avec un œil 10 ans plus tard, 12 ans plus tard du coup maintenant. Voilà.
Oui, c'est drôle parce que avec Anne-Cécile, on s'est rencontrés pour un premier podcast sur Surya Bonaly, c'est avec Binjotio, et qui a été diffusé aujourd'hui, enfin, dans ce même lieu il y a 5 ans. Il y avait même une petite pétouille à l'intérieur auquel on était surpris pendant la diffusion même. Donc aujourd'hui, on avait un petit peu peur. Enfin, c'était assez drôle. On avait des private jokes. C'est très émouvant, je trouve, en tout cas, moi, de l'écouter auprès du public. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. C'est très rapide, c'est très... J'ai l'impression que c'est un peu brutal aussi, mais ça participe au sujet. Et voilà. Et donc, juste après ce projet sur Surya Bonaly, c'est enfin vers 2019, Anne-Cécile m'appelle pour me parler de ce projet. Et en effet, moi, dès qu'on parle de l'affaire DSK, à ce moment-là, c'était, je ne pouvais plus. Je ne voulais pas forcément en entendre parler. Et dès qu'elle m'a donné son regard et elle m'a parlé de Marine Pradel, qui est avec nous, pas physiquement, mais elle est avec nous. Et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Et tout de suite, j'ai voulu, en tout cas, personnellement, les soutenir.
OK. Et ça fait 3 ans, mais on s'en lasse pas. Hein. On continue de trouver des choses. Marine était à New York la semaine dernière. Et elle a... Voilà, enfin, en fait, c'est... En réalité, c'est un peu triste, hein, mais c'est sans fin de,
oui, la
de
petite porte,
réouvrir cette affaire.
Elle était à la petite porte, justement, dont on parle, derrière le Sofitel.
Pardon.
Je crois que c'est un peu un spoiler, mais...
Ah oui. Non, mais c'est bien, justement.
Il y a une sortie de service.
Mais d'ailleurs, on peut peut-être en parler un petit peu. Il y a eu beaucoup de sujets de production autour de votre projet, et vous avez quand même décidé de le produire et réaliser coûte que coûte... Quelle liberté ça vous a apporté de le faire en toute indépendance?
Oui, alors on parle encore sur des sujets de diffusion avec pas mal de gens, parce que l'idée c'est qu'on veut avoir des auditeurs. Mais on a fait le choix conscient dès le début de commencer à produire seul, avec ce que ça implique, hein, effectivement, c'est que du coup on n'avait pas de fonds. Enfin, on a eu le ministère de la Culture quand même comme aide. Et voilà, et puis des petites choses. Mais l'idée, c'est que on a trouvé notre format en cours de route. Et venant de la télé, c'est vrai que c'est une liberté, quoi, de pouvoir tester des choses. Nous, ça nous paraissait hyper léger, quoi, comme dispositif, de pouvoir juste faire ça avec un micro et d'avoir un réalisateur extrêmement patient aussi, j'avoue, et plein de ressources, parce que je crois que finalement, une des idées principales de la narration, c'est toi qui l'as eue. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'on voulait tester. On savait pas si ça marcherait. Et clairement, je pense que si on était parti avec un studio dès le départ, on n'aurait pas voulu passer 3 ans dessus. Donc, on aurait certainement fait une enquête beaucoup plus classique. On aurait dû écrire la chose beaucoup plus vite et tout. Alors que là, on a laissé un peu le podcast se monter tout seul. Rassurez-vous, il y a une structure, il y a des épisodes, il y a des cliffhangers, mais l'idée c'est que c'est pas venu tout de suite, quoi. Voilà. Okay.
Dans l'épisode, on comprend que vous êtes très proche des acteurs de l'affaire DSK en 2011 à New York, et je crois que c'est Maud Bakers qui le dit, même que c'est une des premières affaires qui a permis MeToo. Qu'est-ce qu'elle a de si particulière, cette affaire, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de si important?
Alors moi, elle dit ça. Après, non, ça n'a pas donné MeToo. Donc, l'idée, c'est que je crois qu'il y a eu une image très forte qui a été de mettre un agresseur présumé derrière les barreaux, qui même en France a eu un petit retentissement. Il y a eu, on en parle dans l'épisode 3. Voilà, il y a eu des prises de parole chez des victimes de Dominique Strauss-Kahn et d'autres hommes politiques. Mais malheureusement, l'affaire s'est très mal terminée pour la victime, puisque ça, on en parle énormément, hein, mais en fait, en France, personne ne se souvient de comment ça s'est terminé. Tout le monde pense qu'il a été innocenté. Alors que non, en fait, il a juste pas été jugé. Ce qui est quand même une vraie, vraie différence. Donc ça, on l'explique évidemment, on va dans les raisons, etc. Mais du coup, en fait, ça a fait beaucoup de mal à ce qui aurait pu se soulever à ce moment-là. Il est venu sur TF1 parler de faute morale. Il est rentré, il a plus de menottes, ça envoie pas un message aux victimes qui est très positif, en fait. Donc oui, il y a eu un petit sursaut. Il y a plein de en fait, je vais pas vous spoiler les choses, mais il y a beaucoup des acteurs de l'affaire Weinstein qui sont déjà dans l'affaire DSK, qui disent que eux, ils ont regretté. Ils nous parlent, eux aussi, ça les hante, cette histoire d'avoir laissé tomber, etc. Et c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas géré l'affaire Weinstein de la même manière. Il y a une différence dans le profil de la victime, mais il y a aussi des regrets de leur part qui sont très forts. Et ça, c'était super intéressant à entendre. Et de savoir que tous ces gens qu'on a filmés à l'époque, ils en avaient besoin, en fait, de reparler de ça et de le mettre en perspective avec ce qui s'est passé derrière. Ça, c'est hyper enrichissant à faire.
Ok, et du coup, ça suit un peu ce que vous disiez, mais enfin ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs même un peu le thème de l'ensemble du podcast, du changement de traitement médiatique des affaires de ce genre. Qu'est-ce qu'on peut en relever? Si on peut en tirer un gros enseignement, il y a plein de choses à dire, et j'imagine que vous en parlez aussi dans les prochains épisodes. Mais si on peut retenir vraiment quelque chose
par exemple, si vous faisiez cette affaire aujourd'hui, si l'affaire DSK avait lieu aujourd'hui en 2023, comment est-ce qu'on traiterait cette affaire de...
Je dirais que l'ensemble du podcast, c'est une réponse à cette question. Mais déjà, et moi, je ne suis plus journaliste pour une rédaction. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il y a des journalistes spécialisés qui font ça. Les affaires qui sortent chez Mediapart ou ailleurs, souvent, c'est quelqu'un dont c'est le métier, en fait. Et donc, la méthodologie, il y a une méthodologie, il n'y en avait pas à l'époque, et on peut le voir aujourd'hui quasiment tous les jours dans les affaires qui sortent. On entend parler, non pas d'une victime, mais d'un groupe. Et ça, c'est, enfin, pour moi, la différence principale. Mais voilà, après, il y a juste, voilà, dans la façon dont on s'intéresse, les mots qu'on utilise, le fait de ne pas aller chercher je ne sais pas combien de scénarios pour expliquer la chose autrement que par le fait que c'est un viol. Parce que encore aujourd'hui, moi, à chaque fois quasiment que je parle devant un groupe de gens de ce podcast, les gens me parlent tous de complot, il y a toujours au moins une personne dans un groupe qui n'y croit pas, en fait. C'est triste, post-MeToo, quand on voit le nombre d'hommes qui sont tombés quand même ces dernières années, où il y a je sais pas combien de preuves et tout. DSK, il faudrait que ça reste un complot. Voilà. Et ça, on en parle aussi beaucoup.
Ok, c'est très clair. j'ai une question pour toi, Théo. Dans l'épisode, on entend... Il y a une réalisation hyper... varié, on entend beaucoup de mélanges d'archives, de télé, on entend Anne-Cécile et Marine on entend leurs témoignages, on entend de la musique, on entend d'autres interviews d'autres personnes. Est-ce que tu as envie de dire un mot là-dessus sur la réalisation que tu as choisie et qu'est-ce que peut-être que ça dit ce patchwork d'angle narratif pour le récit?
Alors moi déjà je suis très admiratif de leur travail. Et
nous, on est très admiratifs de ton travail.
Mais vraiment. Et du coup, il faut être à la mesure de répondre à tout ça. Ce qui n'est pas simple. Mais en effet, déjà, c'est une histoire qui se déroule, qui est à la fois américaine, new-yorkaise et française. Donc il y a une esthétique un petit peu particulière qui a été prise, mais notamment au niveau de la musique, il y a aussi cette relation entre la news, la télé, et l'enquête plus sérieuse, réfléchie a posteriori, où on prend le temps de réfléchir, de poser les mots, de se remettre en question. Donc on a ce côté un peu esthétique de la news qu'on ressent un tout petit peu dans la musique. J'ai voulu m'inspirer aussi de l'esthétique des films américains des années 80, que j'aime bien. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... Alors c'est un peu le cas. Il ne faut pas rendre spectacle une histoire dont, justement, on essaie... Et en même temps, c'est ce qu'on dit... Enfin, ça a été un spectacle, donc d'une certaine manière, on le rend aussi spectacle avec un contenu et un fond qui est sérieux. Et bon, c'est assez compliqué, mais d'un point de vue esthétique musical, j'essaie de répondre un petit peu à ça. Avec ce choix aussi, comme tu disais, Jeanne, d'une réflexion, d'un travail de la réalisation qui est... assez dynamique, parfois un peu agressive, et pour réveiller un peu l'auditeur, notamment la partie des archives à la fin, c'est un peu un parti pris qui répond aussi un petit peu à l'agressivité de toute cette histoire. Et puis il fallait vraiment que l'auditeur à la fin, c'est un peu coupé au couteau le montage, il fallait que l'auditeur à la fin soit vraiment réveillé et qu'ils entendent ce shame on you qui est vraiment l'élément principal de l'épisode. Et qu'on a envie de mettre en gras, en souligné, en jaune, en stabilité. Voilà, c'est un petit peu le... Après, ce sera à vous de nous dire si ça fonctionnait ou pas.
On est preneur de tout type de retour, même les négatifs.
Et d'ailleurs, toi, là-dessus, Anne-Cécile, le fait de vous mettre en voix avec Marine, c'est pas forcément quelque chose que vous vouliez faire à la base, mais qui a été plutôt suggéré par Théo. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est né d'une conversation qu'on a eue. Et ça nous a pas mal libérés. Et il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, le pouvoir de la parole est incroyable quand même, parce que... Alors, il y a eu le fait de voir les rushs, mais le fait de parler comme ça nous a remonté des souvenirs et qui ont leur place dans le podcast, en fait. Et bon, voilà, après, du coup, il faut avoir une bonne capacité de stockage sur son Zoom, parce qu'on a vraiment parlé pendant des heures, et voilà, ça fait 3 ans qu'on le fait. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a marché. Après, à voir si ça marche auprès des auditeurs, c'est tout l'enjeu, j'ai envie de dire.
L'idée, c'est de sentir la sincérité qu'il y a dans vos propos et que ça vienne vraiment naturellement, même s'il y a des effets de langage, pas forcément, comme tu disais, où tu pouvais... se sentir, enfin tu disais que tu parlais mal, ce que je ressens pas du tout, mais en tout cas tu parles sincère et la sincérité dans la voix et dans le podcast ça se ressent vraiment, et donc voilà, en tout cas moi j'avais proposé, je tenais à ce qu'il n'y ait pas que de la voix off qui pouvait donner quelque chose qui est important, qui stabilise, qui crée des points d'appui dans la structure du récit, mais cet élément où on sent que vous parliez, vous échangez et vous êtes acteur, en tout cas oui, c'était important.
Ok. Sur la suite des épisodes, du coup on a un petit spoiler à la fin de l'épisode 1, mais comment est-ce que vous allez construire, ou comment est-ce que vous avez construit les prochains épisodes?
Alors il y a 8 épisodes pour le moment. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un 9e à la fin, mais pour le moment, c'est construit comme ça. Ça avance plus ou moins chronologiquement, mais avec, je ne sais pas comment le présenter, on s'était dit, ouais, des thématiques. Le prochain, on est autour vraiment de l'envoi en prison et de cette image très forte des menottes sur DSK, avec, et puis les photos de lui en prison, etc. Je vous dis pas qui il y a dans l'épisode, mais il y a pas mal de monde. Enfin, il y a notamment quand même la juge, on peut le dire ça. Il y a je trouvais ça intéressant d'ailleurs. Maud Beckers, elle dit la justice est aussi sexiste que la société. La juge qui l'envoie en prison, elle a pas grandi en France, elle a grandi aux États-Unis et c'est une féministe des années 70. Et c'est à elle qu'on doit cette image forte. Parce qu'il était prévu qu'il sorte, qu'il paye, il avait ramené énormément d'argent. Il y avait une caution qui était organisée, il était censé sortir, ne pas aller en prison en tout cas, et c'est elle qui l'a envoyé. Et donc l'interview est géniale. Enfin, moi, ça m'a fait tellement plaisir, et on a attendu. Pour le coup, là, c'est les vertus de l'attente, quoi. Elle est à la retraite depuis cette année, depuis cet été. Donc on l'a eu là, il y a quelques semaines. Donc voilà, ça finit par payer tout ça. On va entendre tout le monde. Donc ça, c'est l'épisode suivant. Mais après, voilà, comme je disais, on est plutôt du côté des femmes françaises qui ont essayé de parler à l'époque, victimes ou non, et qui parlent aujourd'hui et qui nous expliquent justement la différence entre les MeToo un peu organisés aujourd'hui et comment c'était à l'époque. On a la façon de fonctionner des journalistes. On parle beaucoup de l'impuissance qu'on avait, nous, le fait qu'il y avait plein de choses qui nous... Enfin, la chasse aux scoops, quoi. Et ça, c'est une image qui, pour tous les journalistes qui ont couvert l'affaire, je ne sais pas, il doit y en avoir ici, c'était un des trucs marquants, quoi, d'être 800 journalistes massés au même endroit, etc. Bon, du coup, comment on travaille dans ces conditions-là et pourquoi on n'a pas fait que des bonnes choses. Donc, ça y est, beaucoup, notre humilité en prend pas mal... notre orgueil en prend un coup. On parle beaucoup des complots. On a des acteurs, les gens qui ont écrit les complots qui ont animé les conversations pendant toute l'année 2011 sont dans le podcast. Les gens qui sont dénoncés par ces complots aussi. Et après, on parle beaucoup de la mécanique judiciaire américaine et pourquoi il n'y a pas eu de jugement. Enfin, pourquoi il n'y a pas eu de procès. Avec notamment l'avocat de Nafissa Tour. Enfin, voilà, je vais peut-être un peu trop loin là dans le détail, mais... et on a pas mal d'autres choses encore après.
Ok, donc tout n'est pas encore construit.
Si, si.
Si
ouais, ok.
Et c'est hyper intéressant ce que tu disais au début. En fait, ça parle vraiment d'une affaire américaine, mais avec aussi une lecture d'une culture française. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter là-dessus ou...
Alors clairement, notre position dans ce podcast, c'est qu'on est femme, journaliste, française. Enfin, je veux dire, on est dans une case déjà dans nos relations avec les gens sur place, etc. La France n'a pas la même image. Enfin, aux États-Unis, on est de toute façon associé au sexe. Donc, c'est, enfin, pardon, c'est très cru ce que je dis, mais au même titre que les gens disaient Zidane et Sarkozy, ils disaient ménage à trois et voulez-vous coucher avec moi, quoi. Donc, c'est assez. On met ça un peu en relation avec la façon dont on a nous-mêmes couvert cette affaire de façon française, en fait. Il y a des tas de trucs, on n'avait pas le réflexe. Mais oui, on vient d'un pays quand même. Où je pense que, oui, c'est peut-être pas un hasard si MeToo est... Enfin, c'est aussi encore une autre raison qui s'ajoute au fait que cette affaire n'a pas donné de MeToo, quoi. On est un terrain, quand même, particulièrement... je sais pas, une société, quand même, où le patriarcat est extrêmement marqué. J'ai l'impression, plus qu'aux États-Unis, c'est très difficile de faire ce genre de raccourci, mais en tout cas, en tant que Française, on a été beaucoup... voilà, enfin... Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas qu'on était victime de, mais enfin tout le monde nous faisait des blagues tout le temps, quoi. Surtout dans une assemblée de journalistes qui n'ont que ça à faire, que de discuter de ce qui vient de se passer, etc. Comme par hasard, on avait énormément d'hommes autour de nous en train de faire des blagues salaces, quoi. Et à nouveau, on était habitués et on donnait le change. Hein, mais on y revient un peu dans le podcast aussi.
Ok. Il reste encore un peu de temps pour des questions au public. Est-ce que vous avez des questions ?
Bah, moi, j'avais pas une question. Je voulais vous dire bravo, déjà. Ça rend hyper humble sur le rôle de producteur, parce que vous n'aviez pas de producteur et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seconde à changer, quoi. Donc, un grand bravo. Et vous avez réussi à faire un truc, c'est de re-rendre actuelle cette histoire, où j'imagine, je ne sais pas, mais quand vous êtes allé voir des producteurs, peut-être beaucoup vous ont dit « Ouais, enfin bon, DSK, ça va, on en a assez entendu parler. » Et en fait, ben non, ça montre bien qu'il y avait encore des choses à dire sur ce sujet. Donc merci beaucoup pour ça. Et ça donne très envie d'entendre la suite. Et ouais, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une seconde à bouger dans la réal, quoi. C'est magistral.
Merci.
On est toujours en recherche de coproducteurs. Je tenais à le dire.
Non, non, c'est vrai, c'est important. Non, non, très important. Nous sommes en recherche de coproducteurs, de diffuseurs, et on aimerait beaucoup en faire une version anglaise. En fait, il va y avoir une version internationale pour les bilingues. Parce que bon, là, c'est une Française qui est interviewée, mais il y a évidemment beaucoup d'interviews en anglais. Donc il y aura une version, en même temps qu'on diffuse le premier épisode, on va en créer une version sans doublage pour les gens qui parlent anglais. Et assez vite, on aimerait aussi pouvoir le diffuser aux États-Unis dans une version en anglais. Et ça, on est très preneur de, enfin, quand bien même c'est pas votre métier, mais de retour d'expérience sur des traductions comme ça de podcast. Parce que nous, on sait que côté, peut-être pas à tous les États-Unis, mais en tout cas à New York, il y a clairement une demande et des auditeurs potentiels. Voilà.
Je voulais juste rajouter un petit truc sur le shame on you, là. Tu disais, Théo, que c'était important pour toi, que c'était, bah, moi, j'aurais presque aimé en entendre plus, en fait. J'ai trouvé qu'il était pas du tout trop présent. Au contraire, ça te prend aux tripes quand tu l'entends. Et t'as un peu l'impression que ça va... Bah, t'as aussi le titre du podcast, forcément, donc ce truc prend son sens. Et que ça va revenir comme un leitmotiv, et j'aurais presque aimé que ce soit plus.
Il y a aussi cette attente que ça arrive. On le comprend à la fin. Et c'est bien d'avoir toujours l'appétit après aussi.
je rebondis sur ce que tu dis, mais ouais, c'est vraiment un immense bravo. Et vous parliez en termes... De parti pris de réalisation ou de narration, enfin vraiment c'est hyper contemporain, bah, à la fois sur le fond, mais la forme rend, enfin vraiment c'est très très beau, les bobines de la fin, je trouve que c'est particulier, ça nous réveille complètement, mais ça reste très élégant, et effectivement sur cette narration qui n'est pas écrite et lue, mais vraiment où il y a des images comme ça qui ressortent au fur et à mesure, c'est assez magique. Et donc, voilà, un immense bravo, ça s'écoute tout seul. Et moi, je me demandais un petit peu, tu as à moitié répondu, mais effectivement, sur les enjeux de... Enfin, il va y avoir de l'anglais aussi. Donc c'était un petit peu voilà, la question de comment vous l'avez peut-être pris en charge à ce stade, dans les futurs épisodes. Et aussi, justement, sur cette narration spontanée, est-ce que ça s'est fait du coup à la fin ou est-ce que ça a été au fur et à mesure des 3 ans où vous êtes enregistré régulièrement ?
Ouais, même plutôt au début. Enfin, oui, ça doit faire au moins 1 an qu'on n'a pas fait de séance comme ça. Donc, ouais, c'était plutôt. Ça nous a aidé dans la construction, quoi. Et sur la prise en charge, sur l'idée de faire de doubler les interviews, ça depuis le début, on le sait. Et il va se poser la question, effectivement, de comment on traduit nos micros. Alors, ceux où c'est de la voix off, où c'est écrit, je pense que ça pose pas de problème. Enfin, je veux dire, ça va peut-être être nous, tout simplement. On se pose la question, voilà, de l'accent. Parce que, clairement, moi, j'ai un énorme accent. Je parle bien, mais j'ai un fort accent français, un peu Esther Perel, si vous connaissez. Et voilà, est-ce qu'on fait du Esther Perel, quoi, voilà. Donc, c'est une Française, mais qui a un podcast américain qui est hyper connu. Et elle a un accent, mais à couper au couteau. Et en même temps, c'est un des podcasts qui marche le mieux, je crois, aux États-Unis. Donc voilà, est-ce qu'on joue le rôle des Françaises jusqu'au bout? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on traduit aussi ces moments parlés en essayant de jouer un peu, quoi? Ou est-ce qu'on fait appel à une intelligence artificielle? Voilà. Je ne sais pas.
Super, moi aussi, je suis très, très emportée par ce premier épisode. J'arrête pas de penser à Nafissa Atou Diallo. Et je me demande si à l'époque vous aviez cherché à lui donner la parole, dans l'enquête, et si par hasard vous avez aussi cherché à lui donner la parole dans ce podcast.
Alors à l'époque,
on avait préparé cette question.
À l'époque, évidemment, comme les 800 autres journalistes de New York, nous étions sur les traces de Nafissa Atou Diallo et on le raconte. Et franchement, je crois que c'est un épisode qui est très drôle. Il y a des côtés un peu dramatiques, mais je crois qu'on n'hésite pas à montrer des trucs un peu embarrassants, quoi, qu'on a fait pour essayer de la trouver. Donc clairement on n'a pas réussi. Enfin, il y a des moments où on l'a vu, hein, elle a donné des conférences de presse, donc on a été en sa présence quand même. Mais nous, on n'a pas réussi à la choper en bas d'un immeuble. Enfin voilà, ça non. Ou dans son supermarché. Enfin, tous les endroits où on est allé, c'est ridicule. Voilà. Et évidemment que on veut faire entendre la voix de Nafissa Atou Diallo dans ce podcast. On est en cours, voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais évidemment que voilà, c'est notre objectif. Mais du coup, on a changé nos méthodes. Enfin, donc, c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Du coup, on n'est pas allé en bas de chez elle. On n'a pas.
Vous étiez intéressé par un retour de. Qu'est-ce qu'on pense du podcast quand vous le diffusez comme ça ? Moi, je suis venu ici en métro et entre le début du moment où j'ai pris le métro et ici, j'ai fait un chemin incroyable. Vous m'avez emmené sur un terrain que je n'imaginais pas. Donc, fantastique. Merci pour ça. Ce que je dirais, c'est que, à votre avis, des affaires comme ça et la force de ce sujet emmènent la société aujourd'hui, encore aujourd'hui, et vous êtes justement en train de le faire valoir. Est-ce qu'un jour on arrivera, selon vous, et qu'est-ce qui ferait qu'on arrive à un équilibre homme-femme qui soit recevable ? Parce qu'on a j'ai un sentiment moi d'être un homme aujourd'hui, ok ? Et ce que je veux dire, c'est que malgré ça, je me rends compte du déséquilibre de la société à cet égard. Et qu'est-ce qui porte, selon vous, un signe d'arriver à un équilibre homme-femme acceptable ?
Je ne sais pas du tout quoi vous répondre, je suis nulle pour ça.
Oui, je crois qu'on a. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Hein.
Mais je crois surtout que, sur cette affaire en plus, il me semble qu'on n'est pas que sur une problématique homme-femme, on est sur une problématique de dominant-dominé. Le mot est bizarre, mais quelqu'un en situation de fragilité sociale, administrative, etc. Et du coup, voilà, je crois que ça dépend. Évidemment, on est sur un sujet féministe, etc. Mais il me semble que l'affaire DSK a d'autres enjeux en plus, quoi. Voilà. Je peux pas du tout vous répondre.
Non, c'est juste que l'emploi du mot féministe est quand même très marquant, clivant homme-femme, dans la définition du terme. Donc oui, à la fois, c'est un sujet beaucoup plus large que l'opposition homme-femme en tant que telle. Et pour autant, c'est porté par du féminisme. Et c'est ce qui me trouble, moi, dans cette approche, c'est qu'on est dans un équilibre. Dans un équilibre, on cherche, on dénonce des choses, et on a raison de le faire, sous un angle féministe. Est-ce que c'est le bon vecteur? Est-ce que c'est... Moi, je souhaite à la société de trouver un mot qui soit nécessairement équilibrant pour tous et pas introducteur d'une rivalité ou d'une opposition homme-femme qui... Voilà. Mais je comprends que ce ne soit pas l'objectif du podcast en lui-même.
Ouais, c'est surtout qu'en fait, je suis vraiment, moi, pas bonne pour parler de ce genre de sujet.
Je crois qu'elle est très bonne pour en parler, mais en tout cas, elle a très bien répondu.
Bonjour, bravo. Moi, j'avais une question en termes juridiques en général, quand on traite des affaires de violences sexistes et sexuelles, qu'elles soient passées et aussi connues que celles-là, il y a des risques, notamment de procès en diffamation, etc. Et DSK reste un homme puissant. Est-ce que, comme vous n'avez pas été produit ou que vous n'avez pas le soutien d'un studio, d'une rédaction, etc., comme on l'encourage dans ce genre d'affaires, vous êtes posé la question et vous êtes entouré juridiquement pour si jamais il y avait des répercussions?
Alors, très bonne question. Nous avons rencontré quelqu'un qui, lui, a été... c'est le seul à avoir... perdu un procès contre DSK, c'est Régis Geoffrey. Il a écrit un livre, il n'a plus le droit de le publier. Et à ce stade, il n'est plus dans le podcast, mais c'est un des premiers qu'on avait rencontré. Et c'était incroyable. Il nous a demandé de lire la dernière page de son livre. Il nous a dit, ça, si vous le mettez dans le podcast, ça, c'est absolument interdit. C'est des mots... Enfin, en tout cas, lui, il n'a pas le droit de les prononcer. Oui, du coup, pour le moment, c'est pas dedans. On va pas non plus trop. On va pas tenter le diable. Je pense qu'on prend les précautions d'usage. On va essayer de dire toujours présumé quand il le faut, etc. On est vigilant, mais on n'a pas d'avocat pour le moment. Et c'est vrai que appel à volontaire, on a peut-être besoin d'un avocat.
D'une certaine manière, vous y aviez pensé beaucoup, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. Enfin,
puis on n'est pas à charge, enfin, on est plus sur les à côté, en fait, quand même. Mais bon, non, mais effectivement, on prend aussi un peu des risques.
Bonjour. Déjà, félicitations, parce que c'était extraordinaire. J'en ai eu plein de frissons à des moments très différents. Donc voilà, félicitations. Le parti pris, du coup, de ce podcast, du coup, c'est vachement de revoir la manière dont vous avez enquêté à cette époque-là, ce que je trouve hyper intéressant. Est-ce que vous pourriez un peu me parler du chemin de pensée, de comment c'est arrivé, de « Ah mince, mais pourquoi on a fait ça comme ça, etc. » Comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et ce qui vous a amené à ce podcast
Je pense qu'on a des personnalités, Marine et moi. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le mot m'échappe, pardon. On rit de nous-mêmes, beaucoup. Voilà. C'est peut-être un peu un problème, d'après ma psy, d'ailleurs. Mais c'est clairement, enfin, on n'a pas de problème à se balancer même l'une à l'autre les bêtises. Enfin, on est quand même des bonnes journalistes, je voudrais dire. Enfin, je veux dire, ça se voit. J'en parle comme si on était les pieds nickelés. C'est tout le problème, c'est que on aime bien appuyer sur des trucs un peu ridicules, mais après on a aussi fait du bon travail. Marine est une des seules à avoir eu une place dans la salle d'audience. Elle est une des premières à avoir eu un compte Twitter à l'époque. Donc en fait, c'est une des personnalités françaises qui a été le plus suivie sur cette affaire. Et elle a travaillé, on était toutes les deux pour la même agence, on a beaucoup beaucoup travaillé. Du coup, pas côte à côte, parce qu'on partait tout seul en reportage. Donc on s'est en fait peu croisés, alors qu'on travaillait pour le même bureau, mais on était tout le temps en reportage, en fait. Mais elle, en plus, elle a fait, je crois, un an d'enquête juste après. Parce que justement, bah, il y avait encore toutes ces histoires de complot et tout, et donc elle a encore plus travaillé le sujet que moi. Elle a eu un peu plus de recul, en fait. Moi, j'ai enchaîné, quoi. Il y avait des ouragans, des tremblements de terre, des tueries dans des écoles. C'était super, vraiment.
Mais ouais, moi, ce que, pour répondre aussi un peu à ta question, je crois, enfin, j'ai cru comprendre sur pourquoi ils ont voulu aussi faire ce podcast par rapport à ce qu'ils ont vécu. Enfin, je sais pas, j'ai entendu ça aussi. En tout cas, moi, ce que je ressens un peu à l'extérieur, ou ce que j'ai ressenti auprès de Anne-Cécile et Marine, c'est cette ambition forte de le faire véritablement, de le finir et de répondre à cette. Enfin, elles le font aussi pour elles avant de faire un projet. Elles n'ont pas fait un projet pour dire on va faire un projet pour l'envoyer à des producteurs, pour parce que c'est notre travail, pour gagner de l'argent ou autre. Non, elles le font déjà pour elles, pour travailler, on va dire, leurs propres doutes, leurs propres remises en question. Pas seulement aussi, hein, y a énormément de choses, mais moi je trouve ça très beau, les doutes et l'autodérision aussi. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup ému, cette volonté personnelle de vouloir travailler sur leur propre travail il y a 10 ans.
Et puis ça donne une cohérence aussi, parce que le. Enfin, ça, c'est vraiment personnel. Quand on est comme ça envoyé en tant que journaliste quelque part, on a tendance à pas digérer les choses. Enfin, le news, c'est quand même c'est spécial, hein, comme métier. C'est un rythme qu'on a du mal à imaginer. Là, vraiment, quand je dis que je suis en jupe, là, je crois que ça faisait 15 jours que j'étais arrivée à New York et j'avais pas eu un seul jour de congé, en fait. On a choisi ce métier, etc. Mais du coup, on digère pas du tout les choses. Et comme on est aujourd'hui toutes les deux changées de pays, bon là, elle est retournée aux États-Unis du coup, mais elle était longtemps ailleurs. Bah voilà, le quotidien fait qu'on passe à d'autres projets. Et je trouvais ça super là, moi, d'avoir. Enfin, je trouve encore ça super parce qu'on continue de travailler dessus, d'avoir l'occasion de digérer. Le mot est pas beau, mais de boucler la boucle un peu aussi de ce travail-là.
Bonjour, bah déjà bravo encore. Moi j'ai une question pour Anne-Cécile. Tu parlais d'erreurs journalistiques et du coup avec ce travail un peu finalement rétrospectif et t'en parlais de digérer, quelles ont été un peu les erreurs journalistiques dont tu parles ?
En fait, c'est pas tant des erreurs. Enfin, bon voilà, moi je trouve que harceler les gens en allant dans tous les commerces de leur quartier en demandant si on les connaît et tout, je sais pas, par exemple, c'est pour continuer l'histoire que je donnais, enfin, voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il y a d'autres façons de faire du. Enfin, je veux dire, il y a d'autres façons de faire du journalisme que ça. Et c'est pas tant des erreurs que du manque de curiosité et du manque de. Enfin, on n'avait pas les outils, hein, honnêtement. On est coupable de pas grand chose. Juste, on pensait pas de la bonne manière, en fait. Même quand des choses nous arrivent à nous, on n'est pas capable de mettre des mots dessus. C'est qu'on a aujourd'hui des nouveaux outils pour comprendre ce qu'on a fait. Et surtout, voilà, du coup, on se rend compte qu'on l'aurait fait différemment. Après, honnêtement, est-ce qu'on a des anecdotes du genre grosse erreur ? Non. Non.
Oui, en fait, c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu dis, donc, dans ce premier épisode, tu dis la justice, c'est le produit d'une société. En fait, elle est patriarcale parce que la société est patriarcale. Les journalistes, c'est pareil. Ils sont élevés, ils grandissent dans cette société et ils ont des réflexes qui correspondent à cette société. Et à l'époque, la société ne se remettait pas en cause, en fait. Donc, vous étiez dans cette société. Voilà. Ouais.
Et on mesure, nous, à quel point on a changé aussi dans ce podcast.
Bon, bah, merci beaucoup. On va devoir arrêter ici, mais merci infiniment pour votre travail et merci pour votre écoute.
Merci.
Merci beaucoup.
Et mais un grand merci au festival quand même, parce que donc voilà, on n'a pas de producteur, mais on a été gentiment invité par le festival, et ça c'est hyper précieux.